Ma mère m'a affirmé plusieurs fois « C'est toi qui fais l'homme avec ta petite copine ». À chaque fois, cette phrase s'accompagne d'un sourire qui dit « Je t'ai compris, ma fille, et je t'accepte comme tu es ». Ça a vraiment le don de m'horripiler. Non, maman, je ne suis pas le garçon manqué qui vient remplacer l'homme manquant dans mes relations affectives. C'est peut-être parce que toi, tu sors avec des mecs depuis toujours que tu vois tout en rose et bleu. Mais ne m'impose pas ta vision réduite des choses, s'il te plaît. Et puis enlève ses œillères, c'est moche. Il y a un an cependant, Clotilde est entrée dans ma vie. La première fois qu'on s'est embrassé, elle a plié les genoux pour se rapetisser. Moi, je me suis hissée sur la pointe des pieds, de sorte que c'est moi qui la prenais dans mes bras, et pas l'inverse. Après l'amour, j'ai écarté grand les bras pour faire une place à sa tête sur mon épaule. Et puis avant de dormir, je l'ai serrée près de moi en cuillère. Moi, grande cuillère, elle, petite cuillère. Dans les premiers temps de cette relation, je me suis dit que j'avais été un peu dure avec ma mère. Il n'y a pas que les hétéros qui se sentent obligés de nous mettre dans les cases masculin-féminin. Les homos aussi sont aux prises avec une hétéronormativité envahissante jusque dans leur intimité. C'est relou, parce que j'ai cru qu'en étant queer et lesbienne et féministe, j'étais libérée des rôles genrés dans mes relations amoureuses. Mais non. Monique Wittig l'avait pourtant prédit dans les années 70. L'hétérosexualité n'est pas seulement une préférence sexuelle. C'est aussi un système politique qui régit notre société et nous empêche de penser en dehors des catégories binaires, hommes, femmes. Tellement naturalisées, ces catégories « complémentaires », avec plein de guillemets, nous invisibilisent, nous discréditent, nous autres personnes non hétérosexuelles. Deux options s'offrent donc à nous. Avoir honte parce qu'on n'est pas normal, ou alors essayer d'être normal, en jouant à Hétéroland. Pour ce podcast, j'ai choisi d'interroger quatre amies sur leur rapport à l'hétérosexualité. Le fait qu'elles soient lesbiennes, queer, homosexuelles ou bisexuelles leur permet-il de s'extraire de l'hétérosexualité comme système? Si leurs expériences, leurs vécus sont très différents, leur réponse à cette injonction à l'hétérosexualité est toujours la même. Non. Être queer à Hétéroland. Ce que l'hétéronormativité fait aux relations queer. Épisode 2. Théodore.
Je suis Théodore, mec cis blanc PD et d'origine portugaise. Alors à la base, je sortais avec beaucoup de filles. J'ai pas vraiment peut-être le sentiment que c'était de réelles relations amoureuses. Non pas qu'il y avait pas d'attachement, mais en tout cas c'était pas peut-être quelque chose qui a pu me faire vibrer comme à mes 20 ans. À mes 20 ans où j'ai rencontré un mec qui était mon premier mec. Mes premières relations amoureuses, il y avait aussi un petit peu de ça où, en effet, c'était chouette de s'afficher avec une meuf, main dans la main, au lycée. Non pas forcément pour mes potes, mais par exemple pour ma famille qui était très fière. Enfin, ma mère était très fière de me dire « Ah, mais tu as une copine et tout. Ah oui, elle est belle, machin, machin. » Enfin, voilà. C'était une sorte de fierté, enfin, comme si ma copine était un trophée ramené. Le sexe avait une importance très importante, enfin vraiment dans, enfin en tout cas dans ma culture portugaise ou dans ma famille, enfin c'est vraiment un truc où on en parle assez ouvertement ouvertement. Les hommes cis parlent de leur relation avec les femmes assez ouvertement parce que ça aussi c'est quelque chose qui est comment dire, c'est pareil en fait, c'est comme un trophée, c'est comme quelque chose que tu valides, c'est une étape importante, enfin c'est important d'en parler entre mecs, de le crier, presque de le crier sur tous les toits, c'est stylé, c'est un peu stylé. Alors, le switch officiel. Bon, il y a un switch officiel peut-être à mes 20 ans où je rencontre mon premier copain, mon premier amoureux en fait. Vraiment peut-être ma première histoire d'amour, où là je commence à me poser des questions et peut-être aussi à passer dans ce mécanisme, dans ce truc de s'affirmer, cette volonté d'affirmation de soi, de s'affirmer PD. Cette relation, alors déjà la grande différence avec mes relations hétérosexuelles, c'est que du coup... Peut-être pour déjà commencer, c'était dans ma tête un petit peu l'expérience. Du coup, c'était un peu comme si j'étais tout nouveau, comme si j'étais encore un peu vierge d'une certaine manière, enfin que j'étais vierge de tout ça. Et du coup, ça c'était assez différent parce que du coup, dans mes relations hétérosexuelles, c'était plus, comment dire, j'avais plus un rôle dominant dans les représentations et aussi dans mes actes. Et en fait, ça a été un petit peu l'inverse où je connaissais pas trop. Contrairement à la personne que j'avais en face de moi, qui elle s'était affirmée, enfin en tout cas se définissait comme PD depuis très longtemps. Et du coup, il y avait un peu ce truc en moi de première fois, et peut-être aussi plus là une histoire de passivité, où je sais pas, mais c'était un petit peu cette personne qui devait m'apprendre à être. Comme c'est nouveau pour moi et que la personne, je l'aime beaucoup, en fait, je suis presque prêt à tout. Sans même réfléchir. Genre, je ne réfléchis pas. J'accepte les modèles relationnels. Genre, relations libres, enfin voilà, plein de choses comme ça. Sans vraiment me questionner sur l'impact que ça pourrait avoir pour moi, parce que cette personne, je suis un peu pris d'amour et un peu fou d'amour pour elle. Et que de toute façon, elle sait mieux que moi. Ou là, j'avais en face de moi une personne que je trouvais, genre. Ouf, et en fait un petit peu qui remuait des choses que j'arrivais plus à enfin que j'arrivais pas trop à contrôler en fait, et que du coup je devenais peut-être un peu esclave du sentiment amoureux, et ça m'allait très bien. J'estime ne pas vraiment avoir réussi à m'extraire de certaines normes qui m'ont été transmises. Et du coup, j'étais un petit peu soumis au sentiment amoureux, comme j'ai pu le connaître en fait finalement avec ma mère. Mon père qui était très souvent absent et tout ça. Et qui souvent peut-être reprochait un petit peu un manque d'amour. Ma mère qui était complètement en manque d'amour, qui a fini par... d'une certaine manière devenir cette personne, enfin la femme hystérique, comme on peut le voir comme on peut le voir un peu partout dans les telenovelas, dans tous ces trucs-là. Et du coup, moi, c'est un truc qui petit à petit s'est formé chez moi aussi, où je pense que j'étais un petit peu peut-être la personne dans ce duo qui en parlait le plus, enfin qui parlait le plus de mes sentiments amoureux. Et qui du coup petit à petit commençait à devenir très jaloux parce que du coup je maîtrisais pas tout ça et que c'était un peu comme si je me sentais femme dans cette relation. J'attendais qu'il m'aime passionnément, j'attendais de l'autre qu'il me serre dans ses bras, j'attendais de l'autre qui m'embrasse en public, j'attendais de l'autre que cette personne m'apporte la confiance que je refusais moi de... Enfin, pas que je refusais, mais qu'en tout cas, je n'arrivais pas à avoir moi-même confiance en moi et j'attendais que ce soit l'autre personne que ce soit mon partenaire qui m'apporte cette confiance en moi, j'attendais plein de choses qui n'étaient pas en fait du... J'arriverais même pas à les nommer finalement, mais j'attendais énormément de choses qui n'étaient pas forcément du ressort de cette personne-là, comme par exemple m'apporter la confiance, d'être le seul et l'unique être aimé. J'attendais d'être, comme dans beaucoup de relations, enfin en tout cas de l'idée qu'on se fait de la relation, ouais, d'être au centre de la vie de cette personne-là. Enfin en fait, il y a aussi ce truc de l'être aimé, du coup, est la seule personne à devoir tout apporter. Enfin du coup, qui est censée remplir tous tes besoins. Et en tout cas, à cette époque-là, je le ressentais vraiment comme un échec. C'était peut-être ça qui rendait cette relation assez violente. Ça a été un gros problème et ça fait du bien de s'en extirper aujourd'hui, enfin de réussir un peu à s'extirper de tout ça, mais ça met du temps à conscientiser un peu ce truc, un peu cette chose-là, que tout ne peut pas reposer sur les épaules d'une personne, et que c'est peut-être un peu aussi une souffrance qui est un petit peu normale, enfin je sais pas comment dire normalisée, mais en tout cas une souffrance qui est acquise dans la relation de se dire c'est normal un petit peu de souffrir de ça, alors que non. Quand je me suis affirmé PD, j'essayais de construire une image de moi, enfin, construire une image de moi, en tout cas répondre à certaines, à certains codes aussi qui étaient peut-être transmises, enfin en tout cas, comment dire, j'essayais d'être peut-être un peu moins masculin, en tout cas en dehors de ma cellule familiale, de me faire péder. Ça pouvait se voir, enfin ça pouvait se sentir, je sais pas où. J'essayais de plus en plus d'aller dans des soirées PD, sur les dancing, sur les pistes de danse où j'adorais, enfin j'aimais bien être la personne en face et de sentir mon partenaire, la bite de mon partenaire derrière collée contre mon cul et puis moi qui me frottais comme ça, enfin voilà, c'était tout ce truc là d'avoir de montrer même par le corps. D'essayer d'affirmer même par mon corps que je me libérais, danser avec mes mains, enfin plein de choses comme ça, je sais pas, mais en tout cas ça a été une étape, ça a été une étape assez importante pour moi, ouais, de se faire péder. Mais voilà, il y a ce truc là de se faire péder, ouais, de peut-être, ouais, tomber dans des travers qui au final ne sont pas les tiens, qui sont très codifiés, ouais. Au niveau de la sexualité, il y a eu pas mal de... Je pense qu'il y a eu pas mal de répercussions par rapport à ça. J'ai tout de suite commencé à être passif. Peut-être dans ma tête, c'était PD égale à quatre pattes. Et puis en même temps, j'avais envie d'éprouver les joies de la pénétration parce que la pénétration, j'avais jamais connu. Et puis que je trouvais ça... Enfin, dans mes relations hétérosexuelles, jamais je ne me suis pris un doigt dans le cul ou quoi que ce soit. Alors que là, du coup, c'était aussi pour moi une certaine manière de franchir un cap. Et du coup, j'étais pendant très 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 longtemps et encore aujourd'hui, je suis majoritairement passif. C'était l'affirmation du être PD aussi d'une certaine façon finalement. Par contre, pour le coup, c'était assez difficile pour moi dans mes relations d'être actif. Ça m'arrivait pas mal de fois de débander quand je me tentais à des rôles actifs. Je sais pas, enfin je pense que c'est vraiment une histoire aussi parfois de... C'est pas ma place, enfin, d'aborder, de formater, enfin, ma sexualité. Et plus j'avance et plus je m'en détache. D'une certaine manière, je m'extrais de ces normes-là et je cherche un petit peu plus, moi, ce qui me fait du bien. Dans ma cellule familiale primaire aussi, les PD étaient vus comme des mariques, comme en espagnol maricon, qui sont un peu justement les folles, les personnes très maniérées, des trucs comme ça. Et que peut-être que ça aussi, ça a eu un poids pendant un moment de ce truc justement de frivolité, de machin, de trucs, de... Enfin en tout cas de légèreté, de maniéré, que du coup le devenir PD... Et bah c'était devenir le marikesh. Ma mère, sans me le dire directement, c'est des questions qu'elle se posait, qu'elle me posait indirectement sans les formuler d'une telle manière, parce que parler de la sexualité, de ma sexualité en tout cas, de parler de la sexualité de son fils pédé, pour elle c'était difficile, enfin c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui très difficile. Et justement un jour on a eu une embrouille un peu comme ça avec ma mère qui m'avait dit « si t'as quitté ton mec, c'est pour faire ta pute et faire tourner ton cul. » C'est quelque chose que j'avais... un discours, en fait, qui s'était construit tout autour de moi. Et très certainement que j'avais intégré. Même mes premiers plans cul, jamais j'ai été actif. J'ai toujours été passif, bien que j'ai eu certaines relations assez traumatisantes, certains plans cul assez traumatisants et assez violents. Et pourtant, je les ai quand même reproduits. Enfin, j'ai quand même reproduit ces choses d'être passif sans cesse. Et c'est un peu une... Enfin, pour moi, c'est un peu... Ça allait un peu de soi de même rencontrer quelqu'un et genre de pas avoir assez confiance en soi ou de pas vraiment questionner ses envies sur le moment et de plus prendre le réflexe « Ok, bah, vas-y, je baisse mon froc et c'est toi qui vas rentrer ta tub. C'est pas moi qui vais te la rentrer, c'est comme ça. » Enfin, c'est... « les mecs qui sont assez virils, qui crient fort, qui parlent vraiment avec des grands gestes, des choses comme ça, m'ont toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup attiré. Attiré parce que, en même temps, je les aime et je les déteste. Ils attirent ma sensibilité parce que il y a d'autres choses qui se cachent là-dedans. Et peut-être que je me sens proche d'eux parce que eux aussi, peut-être, certaines normes ont été véhiculées, que peut-être eux aussi répondent à certaines normes ou des choses comme ça. En fait, ils ont incarné quelque chose qui, moi, m'a pas mal, en même temps, fait rêver et fait souffrir parce que je ne correspondais pas du tout à ça. Je ne correspondais pas du tout au mec viril, au mec qui parle fort, au mec justement musclé, qui se met torse nu dans la rue, qui se met torse nu à la plage. D'ailleurs, quand je vais à la plage, moi, je me cache tout le temps les tétons. Enfin, c'est vraiment un truc, je sais pas, enfin, c'est un truc où... ou même être torse nu, c'est un truc avec lequel j'ai jamais été très à l'aise de me montrer. Quand je parle de tous ces mecs-là, généralement, qui incarnent la masculinité, je pense à un recueil de poésie de Yoshua, Los Putos, aux éditions Terrasse, et un poème en particulier qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle Los Pibes. Donc je vais en faire une petite lecture. Eux, ces brutes, ces gamins, tous, ils veulent me condamner. C'est pour ça qu'ils traînent à poil quand il fait chaud, pour me mettre la poitrine en cage. C'est pour ça qu'ils se vantent de leur peau brune, pour m'attacher par mon désir. Ceux-là, ces racailles, si beaux, ils veulent m'attacher et moi je sais pas. C'est que j'aime tellement les voir, maigres, durcis, schlag, brutes, si cons, si beaux, je les aime. Et je sais que je passerai ma vie à les admirer en mode taré, à fond, amoureux. Les pibesses de mon quartier sont déterminées à pas me laisser partir. Ils traînent à poil quand il fait chaud, pour que je reste là à les regarder en mode taré. Parce qu'ils savent que la sueur qui les fait briller à l'heure de la sieste au coin de la rue, c'est comme un phare pour moi. Les pibesses de mon quartier veulent me condamner, mais moi je sais pas, moi je veux tout, tous. Je veux les pibesses de mon quartier, je veux aussi les autres, tous. Et c'est pour ça que je peux pas rester condamné par les pibesses de mon quartier. En cage, juste avec les pibes de mon quartier. Attaché juste par les pibes de mon quartier, moi je veux tout, tous. Et je vais avoir la force d'aller chercher d'autres pibes. Oui, parce que moi je les veux tous. Machitos, racailles, schlag et pauvres, guachines, brutes, féroces. C'est pour ça que je vais avoir la force d'aller les désirer tous. Tous ces pibes à la peau brune, au corps maigre et durci, à la bouche grande et à la langue brute. Parce que je les aime tous. C'est pour ça que je vais aller les chercher tous, ces pibesses au cœur battant, brut et féroce, oui. Les pibesses de mon quartier sont beaux, mais moi je sais qu'il y a encore plus de beauté dans d'autres rues, dans presque toutes les rues, même si les pibesses de mon quartier sont comme un phare. Non, moi je pars. Parce que les pibesses de mon quartier sont déterminées à pas me laisser partir, et moi, je veux pas. Je veux aller en chercher d'autres, parce que je suis presque certain qu'il y a un quartier quelque part, avec une rue quelque part, où il y a un pibé, juste un pibé, au cœur battant, plus brut et plus féroce que tous. Et moi, je pars le chercher, pour qu'il me condamne, pour qu'il m'attache par mon désir et me mette en cage, brut et féroce, dans sa poitrine. Alors aujourd'hui... les choses ont pas mal changé et ça fait très très peu de temps. Je me suis séparé de mon premier grand amour il y a maintenant un an. Et pour un peu aussi, moi, me re-questionner, me repositionner, comme j'avais perdu toute autonomie, comme j'arrivais plus à formaliser mes besoins et tout ça. Et aujourd'hui, j'en arrive à vivre des relations multiples avec multiples affectueux. Des personnes assez différentes les unes des autres, parce que je me suis détaché de cette idée de faire reposer sur les épaules d'une personne toutes mes attentes. J'essaye aussi de formuler mes besoins. Ça, c'est devenu quelque chose de très important aussi pour moi, de formuler mes besoins. Je ne crois plus peut-être aussi en la forme couple. Ça peut très bien correspondre à d'autres personnes, mais en tout cas, moi, non. Et sexuellement parlant, du coup, je re-questionne aussi pas mal toutes ces normes-là. Ça fait un an... presque que j'ai abandonné complètement la pénétration, que j'essaie d'explorer aussi d'autres terrains. Et ce qui est très nouveau, c'est que je n'ai jamais autant communiqué sur ces choses-là que maintenant. Je prends enfin aussi en compte mes temporalités, le fait de ne pas savoir, le fait de savoir des choses, de me dire que ben, en ce moment, je préfère ça à ça, qu'en ce moment, ça, ça me convient plus. Enfin, c'est vraiment des... J'essaye d'être plus dans la maîtrise. Et après, plus au niveau de mon identité personnelle, à une soirée, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me demande « Mais est-ce que tu es maçon ? Est-ce que tu es danseur ?» Et je sais pas, mais c'est quelque chose qui m'a fait tellement plaisir parce que, d'une certaine manière, je me suis dit que je pouvais être plein de choses en même temps. Et ça, c'est super.
C'était le second épisode d'Être queer à Hétéroland. Un podcast d'Anaïs Suire et une création sonore d'Alexis Fernandez et Mona Fella. À suivre dans le prochain épisode, Mona. Merci à Laura, Anna, Théodore et Mona pour leur témoignage et leur confiance. Merci à Radio Moulin aussi pour l'assistance au montage, le prêt de matériel et le regard toujours bienveillant. Merci enfin à Sidonie Hadou pour ses super conseils. Thank you.